Passion lire, la chronique littéraire de Gilles Labourroir. Bonjour, voici quelques minutes de littérature que je partage avec vous. Quand je pense à tous les livres qu'il me reste à lire, j'ai la certitude d'être encore heureux, disait Jules Renard. Aujourd'hui, Le général de l'armée morte de Ismaël Kadaré. Un quart de siècle après la Seconde Guerre mondiale, un général italien, celui que Kadaré appelle le général de l'armée morte, accompagné d'un prêtre et d'un expert, parcourt l'Albanie, de longs mois durant, à la recherche des restes de ses compatriotes italiens tombés lors des combats de jadis. Certains corps se trouvent dans des cimetières, et il est relativement aisé de les exhumer. D'autres ont trouvé une sépulture plus active et nécessite le zèle de plusieurs terrassiers recrutés sur place. Alors qu'ils vont plus loin dans la campagne albanaise, ils découvrent qu'ils sont suivis par un autre général, un Allemand, à la recherche des corps des soldats allemands tués durant la Seconde Guerre mondiale. Comme son homologue italien, il lutte avec ce travail de recherche ingrate et s'interroge lui aussi sur la valeur de ses gestes de fierté nationale. Le second coup de théâtre se situe à la fin du roman. Parmi les cadavres manquants à notre Italien, il en est un, colonel Z, horrible bourreau et qu'une paysanne a enterré de ses propres mains par esprit de juste vengeance. Lorsque le général finit par le récupérer, tout le mythe de sa mission s'écroule soudain en lui. Il se sait un comédien dérisoire dans un opéra bouffe sans signification. Pris de colère, il éparpille le squelette précieux. Mais comment rentrer au pays? Dans un moment de beuverie, son copain germanique lui fournit une solution géniale. Le colonel Z mesurait 1m92, taille rare pour un Italien. Les Allemands, eux, étaient plus grands. Donnez-vous la peine, mon cher collègue, de choisir parmi ma réserve des squelettes. Ismaël Kadaré est né le 28 janvier 1936 à Gjirokastër, en Albanie. Il étudie les lettres à l'université de Tirana, la capitale, et à l'Institut de littérature Maxime Gorki de Moscou. En 1960, la rupture entre l'Albanie et l'Union soviétique l'oblige à revenir à l'Albanie où il entame une carrière de journaliste. Il commence à écrire très jeune, au milieu des années 1950. En 1963, l'apparition de son premier roman, Le général de l'armée morte, lui apporte la renommée, d'abord en Albanie, puis à l'étranger. Dès lors, son œuvre est vendue dans le monde entier et traduite dans plus de 45 langues. Kadaré est considéré comme l'un des plus grands écrivains intellectuels européens du XXe siècle et, en plus, comme une voix universelle contre le totalitarisme. En 1967, l'Albanie lance sa révolution culturelle. Le régime oblige les écrivains à vivre dans les campagnes à la rencontre du peuple. Kadaré passe ainsi 2 années à Berat, dans les montagnes du Sud. De 1967 à 1969, il n'en continue pas moins sa lutte constante contre le totalitarisme. Entré en disgrâce pour ses écrits subversifs, conçus comme une critique détournée du régime, il est finalement contraint de publier ses romans à l'étranger. Se sentant menacé, il émigre en France, où il obtient l'asile en octobre 1990. Ultérieurement, il partagera sa vie entre la France et l'Albanie. Il est mort le 1er juillet 2024, à Tirana. Il était l'époux de l'écrivaine Elena Kadaré et le père de la diplomate Bessiana Kadaré, ambassadrice des Nations Unies et vice-présidente de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il est l'auteur albanais le plus lu à l'étranger. Kadaré est considéré comme l'un des plus grands écrivains contemporains et son nom a d'ailleurs été plusieurs fois cité comme favori au prix Nobel de littérature sans jamais l'obtenir toutefois. En Albanie, Kadaré est souvent présenté et désigné comme le Victor Hugo albanais ou le Charles Dickens albanais du fait de ses vues à caractère sociétal. Son œuvre a été adaptée au cinéma par Luciano Tovoli avec Michel Piccoli, Marcello Mastroianni, Anouk Aimée. Le général prenait note sur un carnet de tout ce qu'on lui disait, en répétant toujours « Ne vous inquiétez pas, les listes dressées par le ministère de la Guerre sont très précises et grâce aux indications détaillées qu'elles comportent, nous ne manquerons pas de retrouver tous ceux que nous cherchons. De toute manière, je prends note des renseignements que vous m'apportez. Ils pourront nous être utiles. » Il s'en allait après l'avoir remercié. Et le lendemain, c'était de nouveau la même chose. D'autres venaient, l'imperméable trempait. Ils avaient beau marcher précautionneusement sur l'épais tapis, ils n'y laissaient pas moins l'empreinte de leurs chaussures. Certains craignaient que leurs proches ne fussent pas inscrits sur les listes, d'autres présentaient des télégrammes reçus du commandement durant la guerre et qui portaient la date et le lieu où le soldat était tombé au champ d'honneur. D'autres, enfin, les vieux parents surtout, ne pouvant croire que leur fils puisse être retrouvé uniquement à l'aide des renseignements figurant sur les listes, repartaient, désespérés, après avoir supplié une fois de plus le général de n'épargner aucun effort dans ses recherches. Tous avaient leur petite histoire à raconter, et le général les écoutait patiemment, chacun à leur tour. Depuis les femmes maintenant remariées, qui à l'insu de leur nouveau mari s'intéressaient au sort de leurs premiers époux, jusqu'aux jeunes gens de 20 ans, en chandail et en trench coat, qui n'avaient jamais connu leurs parents tombés à la guerre. La dernière semaine avant le départ, le nombre des visiteurs s'accrut encore. En revenant du quartier, le général trouvait son salon bourré de monde. La pièce avait l'air d'un couloir de clinique rempli de malades attendant d'être examinés, mais le silence ici était encore plus complet. Les visiteurs restaient muets pendant des heures, les yeux fixés au sol sur les dessins ou du tapis, et ils ne levaient la tête que lorsqu'un nouveau venu entrait pour aller s'asseoir dans un coin. D'autres, des villageois venus de loin, se présentaient avec au bras un baluchon qu'ils déposaient à leurs pieds, alors que devant la porte d'entrée, ce qui attirait l'attention du général dès qu'il descendait de voiture, c'était des bicyclettes appuyées aux barreaux de la grille et parfois une auto stationnée le long du trottoir. Puis ils gagnaient directement le salon, où l'odeur âcre des vêtements de grosse laine mouillée des paysans, mêlée au parfum de quelques dames élégantes, le prenait à la gorge. À son entrée, tous se levaient respectueusement, sans dire un mot, sachant bien que ce n'était pas encore le moment de lui parler. C'était la chronique littéraire de Gilles Labouroir. À bientôt.